Conçue par Jocelyne Desjoux et Gaëlle de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise, par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant.
Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales.
Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, et bah, les filles qui vont développer ces outils, bah, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%.
À plein d'endroits, c'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ?
Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Les Femmes Digitales. Alors la personne que nous recevons aujourd'hui est un bel exemple que le monde du numérique ne s'arrête pas à l'informatique. Nous allons parler de tech, de santé, de soft skills, de maternité et même de thérapie alternative. Oui, je sais, pris indépendamment, on ne voit pas vraiment le lien. Et pourtant, je remercie chaleureusement Ingrid Portilla, qui est notre invitée du jour et qui va nous offrir une alternative éclairante sur la femme digitale qu'elle représente. Bonjour Ingrid.
Bonjour Magali et bonjour à toute l'équipe Campus FM que je découvre avec plaisir.
Alors Ingrid, explique-nous pourquoi tu es une femme digitale.
Au jour d'aujourd'hui, je suis dans une activité pour la société MedExprime qui concilie un petit peu tous les abords que j'ai pu tester jusque-là dans mon expérience professionnelle, à savoir, à commencer par toute la gestion de bases de données. Et aujourd'hui, cette dimension, elle prend une dimension internationale dans ma structure pour aider la médecine, la recherche clinique. Et d'un point de vue pragmatique, aujourd'hui, je pilote les projets plutôt d'un côté management d'équipes, de différentes équipes très variées, et d'établissements de santé publique aussi, qui nous aident à construire ces bases pour aider la recherche à la fois dans le diagnostic, le pronostic, les différentes techniques de prise en charge des patients, et le suivi de l'efficacité des traitements, principalement en oncologie pour l'instant, et demain sur d'autres pathologies.
Donc, ce que tu nous expliques là, c'est que tu travailles dans une société qui s'appelle MedExprime et qui travaille plutôt dans la filière santé et qui va justement rapprocher le monde du numérique et le monde de la santé. Alors, toi, raconte-nous un petit peu quelle fut la genèse de ton parcours professionnel et ce qui t'aura finalement amené dans le numérique.
Au départ, j'étais passionnée par toute l'infiniment petit, la biologie cellulaire. Et l'objectif, c'était un jour de participer à la recherche fondamentale, comme beaucoup de rêveurs à la fac. Et je m'étais dit, jamais Paris, jamais l'informatique. Voilà. Mais un jour, on se retrouve sur le marché de l'emploi, en l'an 2000 en l'occurrence. Et deux postes s'offraient à moi à cette époque-là. C'était soit des postes d'attaché de recherche clinique, des formations qui étaient en l'occurrence payantes, soit des formations d'ingénierie informatique en gestion de bases de données, qui là, pour le coup, étaient rémunérées pour intégrer ensuite des sociétés de services, qu'on appelait à l'époque SS2I. Et donc, il se trouve que j'ai choisi de compléter mon cursus de recherche par l'informatique en me disant que, quelque part, c'était une autre forme d'investigation, que ça restait des sciences. Je l'ai pris par cet abord-là et au final, je me suis prise au jeu puisque j'y suis restée à peu près 7 ans. Et l'entretien d'embauche, d'ailleurs, s'est déroulé autour de discussions de lectures policières pour voir ma tournure d'esprit. Au final, j'ai été recrutée plutôt sur une logique, une approche scientifique et très cartésienne à l'époque, plutôt que pour des compétences qu'on n'avait pas, puisqu'on nous formait seulement 2 mois avant de nous envoyer sur des missions telles qu'à la Société Générale ou autre.
Alors donc, toi, tu as fait des études plutôt en biologie, hein, donc pas du tout mathématiques, pas du tout informatique. Malgré tout, on en avait discuté ensemble, j'étais souvent entendu parler d'une quête, d'aller chercher la compréhension du corps humain avec cette ambition de participer à l'amélioration de la santé publique. Et tu as vu cette opportunité professionnelle. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est que cette, alors aujourd'hui on dit ESN, Entreprise du Service Numérique, cette ESN, elle t'a recruté non pas pour ton diplôme, puisque tu n'avais pas de diplôme informatique, mais vraiment pour finalement la personne que tu étais, toi Ingrid, et tes compétences.
Exactement. Et d'ailleurs, un an après avoir démarré dans cette grosse structure de l'époque, on m'a tout de suite confié une gestion de projet. C'est-à-dire que j'ai fait assez peu de développement au final, parce que l'informatique, ce n'est pas que du développement, mais j'y reviendrai. Et on a, voilà, plutôt, on m'a plutôt sollicité pour gérer un projet de A à Z à partir d'un texte de loi. Et on m'a dit, vas-y, t'as les clés en main et c'est à toi de le piloter depuis l'étude de besoin jusqu'au développement et jusqu'à l'installation, formation finale. Et donc, en fait, on revient sur cette dynamique de... Voilà, j'ai un projet à gérer, j'ai parfois des blocages, des hypothèses à poser, et puis on reste sur cet esprit d'investigation, de logique informatique et scientifique.
Donc c'est ça, c'est vraiment l'esprit scientifique qui a primé. Et alors dis-moi, dans cette expérience, dans cette ESN, est-ce que tu étais entourée de beaucoup d'hommes ou est-ce que tu étais plutôt en minorité en tant que femme ?
Alors clairement, j'étais la seule femme sur tout un plateau technique. On devait avoir une bonne vingtaine de personnes qui avaient en moyenne 10 à 15 ans de plus que moi, qui étaient à la fois très expérimentées en informatique et à la fois sur leur milieu fonctionnel, puisque moi je venais de la biologie, donc autant dire qu'en arrivant sur le monde de la banque ou de l'immobilier, je partais vraiment de zéro. Donc j'étais vraiment la seule fille, mais en même temps, ça a été vraiment une force, je pense.
C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que justement le fait d'être la seule fille fut pour toi non pas un frein ou déstabilisant, ou peut-être, hein, tu vas nous raconter ça, mais que ça a été plutôt une force. Vas-y, est-ce que tu peux développer ?
Alors au début, le frein, ça a plutôt été le décalage au niveau des compétences. Et le fait d'être une fille, j'ai vite compris qu'en fait, je pouvais arriver avec... toute ma spontanéité, ma naïveté, en disant, voilà, va falloir que vous m'expliquiez comme si j'avais 4 ans. Et en amenant beaucoup de douceur dans le service, mon responsable disait lui-même que depuis que j'étais dans l'équipe et les réunions hebdomadaires, ça décongestionnait un petit peu les rapports hormonaux qu'on pouvait avoir à l'époque dans les réunions. Et au final, c'est vrai qu'on me missionnait aussi pour aller voir certains profils difficiles d'accès. Donc, en y allant plus par le biais de l'humour, ou de l'empathie, souvent. Ça me permettait quand même d'être vraiment en très bons termes avec beaucoup de mes collaborateurs, même ceux qui n'étaient pas forcément faciles d'accès et qui sont encore aujourd'hui des amis.
Est-ce qu'on peut dire aussi que tu as pu être peut-être un élément positif dans des situations peut-être un peu complexes, un côté un peu désamorçage ?
Complètement, oui. Je servais pas mal d'intermédiaires et... parfois même, je travaillais beaucoup en binôme avec mon responsable qui se reposait sur moi en fin de réunion pour savoir comment il aurait justement pu désamorcer ou mieux écouter ou mieux entendre. Ça permettait d'avoir un regard un peu neutre, puisque moi je ne rentrais pas forcément dans ces conflits d'intérêts, pour poser de façon très pragmatique quelles étaient les problématiques et les enjeux qui se passaient pendant ces réunions de discussion et négociation, en fait, sur le plan technique évidemment.
Donc rapidement, tu as compris finalement la force que d'être une femme dans ces métiers du numérique, avec cette vision et ces compétences humaines finalement complémentaires à celles des hommes. Alors, après ton premier bébé, tu m'as raconté que finalement, tu t'es rapprochée un peu de tes premiers amours en rebasculant, donc en quittant un peu le monde des ESN et en rebasculant vers des métiers de la recherche clinique. Alors, comment fait-on pour justement basculer d'un métier d'informatique, d'une entreprise, justement vraiment étiquetée entreprise service du numérique et repasser dans une filière santé, un peu plus vers l'origine de la biologie? Est-ce que tu as réussi justement, c'était dans une suite logique par rapport à ton expérience précédente? Est-ce que tu as pu valoriser cette expérience dans le numérique? Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé.
En fait, c'est ma première société qui m'a ouvert la porte de la deuxième, sans le savoir. En fait, pendant mon premier congé maternité, il se trouve qu'en interne, ils recherchaient à l'époque des profils qui soient mixtes à la fois en informatique, base de données, et à la fois en biologie. Or, dans tous leurs serveurs, j'étais le seul profil sur Paris, parce qu'à l'époque, c'était sur Paris, à remplir ces critères-là. Et du coup, c'était pour une mission de prestation de data manager, à l'époque, chez Sanofi. Sauf que ce projet ne s'est jamais fait. Mais entre-temps, la puce à l'oreille était plantée. Donc j'ai continué à faire mes recherches en parallèle pendant le congé maternité. Et il se trouve que quand je suis revenue, je me suis dit qu'il y avait effectivement là l'opportunité de faire le même métier de gestion de base de données, de projet, mais à des fins de recherche. Donc revenir sur mon, sur ma vocation initiale, à savoir participer à la recherche et à la santé publique via le data management. Donc j'ai postulé dans ce qu'on appelle aujourd'hui des clinical research organizations, dans des CRO, et il se trouve que mon profil a très vite intéressé en une semaine, en fait. J'ai trouvé un poste directement. Là, pour le coup, pour mettre à profit toute la partie gestion de projet de recherche, mais l'informatique n'était plus l'objectif final. Dès lors, l'informatique est devenue un outil. Et très vite, le directeur de la société m'a dit, écoute, en SCRO, on n'est pas forcément structuré, côté informatique, côté gestion de projet. Par contre, on aimerait bien que tu transposes ce que tu as appris dans des grosses structures d'informatique au milieu de la recherche. Et c'est ce qui s'est passé, à la fois dans la réorganisation du serveur, des données, de la gestion de projet, du suivi hebdomadaire, etc. Vraiment une structure.
Ok. Est-ce que pour juste préciser pour nos auditrices et nos auditeurs, tu as parlé de data manager, tu as parlé de CRO. Est-ce que tu peux juste donner vite fait, rapidement, une petite définition?
Alors, une CRO, c'est une société qui est prestataire de services pour, en général, l'industrie pharmaceutique ou du DM, du dispositif médical, pour gérer tout ou partie de la recherche. La recherche clinique, c'est la recherche, la dernière, après la recherche fondamentale, celle qui va concerner les tests à l'échelle humaine. Pour le coup, les data managers sont ceux qui vont collecter, nettoyer et transférer toutes ces données-là, avec le process qualité qui va bien, à ces industriels qui, in fine, sont censés faire des autorisations de mise sur le marché ou des marquages CE avec les données de qualité qu'on aura fournies en tant que CRO. Et les architectes sont les personnes qui peuvent aller sur site, aider les médecins à collecter ces données, vérifier aussi que les données collectées sont cohérentes avec les données sources, en l'occurrence les données patients, qui ont donné leur consentement, bien évidemment.
Ok, donc on en vient dans ton histoire à une deuxième grossesse qui arrive. Et raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
Ça a été beaucoup moins bien perçu que dans la première société, dans la CRO où j'étais donc à l'époque. Je me suis entendue dire pour la première fois « Ah, une grossesse, mais c'est pas le moment ». Et là, je me suis dit « Mais c'est pas juste ». Parce qu'effectivement, le responsable avait lui-même 3 enfants, sa femme était directrice commerciale, et je me suis bien dit « Il a fallu que quelqu'un t'aide à gérer ses projets, en l'occurrence ta femme au sein de la société ». Donc, quand je suis revenue de mon congé maternité, disons que j'étais un petit peu décalée par rapport à la philosophie et à l'éthique de la société, qui pour le coup était une société purement féminine, dans la recherche clinique en général. Donc j'ai demandé s'il était possible de faire une rupture conventionnelle pour revenir dans le sud avec 2 enfants, pour changer de qualité de vie et vraiment pour essayer de trouver une société qui corresponde un petit peu mieux à ma philosophie un peu humaniste d'entreprise.
Ok, donc cette grossesse, donc elle est mal perçue, malgré tout tu rebondis et ça t'ouvre des nouvelles perspectives, même professionnelles. Donc raconte-nous un petit peu ces nouvelles perspectives et puis ce nouveau spectre de compétences que finalement tu as mis à profit en te posant les bonnes questions, surtout du sens de ta vie et de tes valeurs.
Exactement. Pour le coup, quand je suis redescendue dans le sud-ouest, donc à Toulouse, pour me rapprocher de mon Pays basque natal, j'ai intégré une petite société qui devait être vendue et qu'il fallait a priori redresser avant de la revendre. Donc ça demandait de gérer absolument tous les aspects de la boîte. L'aspect recherche, l'aspect recrutement, l'aspect contractuel, l'aspect commercial, évidemment l'aspect informatique, la rédaction des procédures. Vraiment, tous les niveaux étaient à gérer. D'ailleurs, là, à nouveau, les 2 responsables de la société qui, eux, partaient, m'ont fait complètement confiance. J'ai encore eu carte blanche. Je pense qu'à chaque fois, j'ai vraiment bénéficié de cette confiance. Et pour le coup, ça m'a permis de développer la boîte pendant 5 ans, à tel point qu'on a réussi à bien la vendre en repartant et qu'elle a été rachetée par une société de Paris. En parallèle, je commençais déjà à développer une autre activité. Pour être clair, j'avais été magnétisée personnellement pour un kyste à l'œil quand j'avais 20 ans et qui avait disparu en moins de 2 ans. Donc en parallèle de mes études très matière, très 3D, très scientifique, j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres moyens de prendre soin des personnes. Et donc, je l'ai développé, mais d'un point de vue très personnel, au niveau des amis, de la famille, à travers le magnétisme. Et dès lors, les 2 personnes qui m'ont recrutée en arrivant à Toulouse, justement, partaient pour des activités similaires, en l'occurrence en naturopathie, sophrologie, iridologie, reiki. Et ça m'a vraiment tellement ouvert l'esprit et j'ai réouvert un champ que j'avais un petit peu endormi, que pour le coup, je suis partie faire des formations complémentaires au niveau énergétique. Donc j'avoue que j'ai complété mon panel parallèle à la société sur tout ce qui est prise en charge directe des patients et non plus seulement par la voie de la recherche de façon générale pour toucher une population de masse, mais là vraiment pour toucher à l'individu et là pour le coup dans l'investigation et la compréhension de chacune des personnes que je rencontre.
Et donc du coup, tu mènes deux activités professionnelles. Tu développes ton propre business, tu es toujours salarié d'entreprises qui se sont succédées. Et à un moment donné, ça a été bien perçu. Tu as réussi à avoir peut-être un temps de travail adapté au fait que tu développes une activité parallèle. Explique-nous un petit peu comment le chef d'entreprise qui était en face de toi t'as accompagné, t'as dit un mot qui était très très important, tu t'es sentie soutenue. Explique-nous un petit peu ce soutien.
Complètement. En fait, quand j'ai quitté cette société toulousaine, le jour où elle a été revendue, j'ai décidé de passer à 80% sur mon activité professionnelle pour me consacrer à cette activité thérapeutique parallèle à 20%. Ça a été très bien perçu dans le sens où déjà, dès lors du recrutement, moi, j'ai proposé mon chemin de vie, en fait. Et ça correspondait complètement à l'éthique du nouvel employeur. Donc c'est pour ça que je m'y suis vraiment plu. J'y ai passé 5 ans aussi. Et dans ma nouvelle société, ça a été complètement accepté aussi, sachant que ce n'est pas évident de manager des projets en étant à 80%. Mais ça permet vraiment d'avoir un bel équilibre, je trouve, en tout cas, entre mon univers scientifique, mental, 3D, et puis mon univers beaucoup plus émotionnel et spirituel que je peux exercer le mercredi. En fait, je pense qu'on arrive à un âge où c'est pas seulement un employeur qui vient nous recruter, c'est aussi nous qui choisissons pour qui on va passer notre énergie. Et il faut vraiment, je pense, qu'on soit aligné avec l'éthique de la politique d'entreprise pour arriver à s'amuser à ce que les journées se soient transformées en pur bonheur plutôt qu'une vraie contrainte professionnelle.
Et donc aujourd'hui, alors on comprend que tu as vraiment, vraiment pris toutes ces épreuves de la vie un peu du monde professionnel à bras le corps. Ça t'a permis de devenir la femme que tu es aujourd'hui, aussi bien personnelle que professionnelle. Et ton poste aujourd'hui, donc chez MedExprime, il semble que tu as réussi à trouver cet équilibre vie pro, vie perso, en utilisant toutes tes compétences, mais que ce soit technique et humaine, acquise finalement déjà sur le passé de ta carrière professionnelle et qui n'est pas encore terminée.
Exactement.
Est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'au vu là, de ton parcours et des différentes entreprises que tu as traversées, qu'il y a quand même eu une évolution des mentalités et qu'aujourd'hui, justement, les entreprises du numérique, alors hein, le numérique spectre large, hein, ni étiqueté santé, ni étiqueté informatique pure, est-ce qu'on voit qu'il y a eu une évolution des mentalités qui permettent justement d'avoir des carrières beaucoup plus improbables par rapport à l'époque quand on était jeune, où il semblerait-il qu'il fallait avoir un diplôme pour avoir un métier et prendre sa retraite.
Ah mais clairement, clairement. C'est vrai que quand on regarde le parcours, il y a encore 20 ans, être la seule fille sur un plateau, et aujourd'hui, on a une vraie mixité chez MedExprime, mais sur tous les plans, que ce soit au niveau de la R&D, produits.
Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui t'entourent quant aux perspectives qu'offrent les métiers du numérique ?
Alors, je leur dirais bien évidemment d'essayer, d'oser, d'y aller. On n'a pas du tout idée de tout le panel qu'on peut trouver derrière la porte. Et en l'occurrence, on trouve toujours dans les métiers du numérique une des activités qui correspondra à notre savoir-être ou à notre savoir-faire. Et c'est vrai que c'est un corps de métier où on s'adapte rapidement à la compétence qui arrive dans la structure. Et non pas l'inverse.
Et donc, on terminera par le mantra de cette émission, hein, du numérique au féminin. Le numérique.
Une opportunité pour les femmes.
Les femmes.
Une opportunité pour le numérique.
Encore un bel exemple avec Ingrid d'une carrière dans le numérique qui peut nous faire passer par toute une panoplie de métiers, de compétences, de carrières, et que finalement, le plus important reste de suivre notre propre voie. À toi, auditrice, auditeur, je te pose ces questions qui devraient t'accompagner dans ta voie professionnelle. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui t'anime ? Quel sens veux-tu donner à tes actions dans le monde du travail et dans le monde de la société humaine ? Encore un bel exemple que le numérique et le digital ne se résument pas à l'informatique. C'était un véritable plaisir de recevoir Ingrid Portilla pour notre émission Les Femmes Digitales. Merci Ingrid, ton témoignage est précieux et ouvrira, j'en suis certaine, des vocations. Je vous souhaite à toutes et tous une lumineuse semaine. et vous dis à très vite pour notre future émission.